précisément 6h du matin. Très bon réveil à tous.
Ce médicament, il a été sur le marché pendant plus de 30 ans en France. Le risque de survenue d'événements qui seraient inconnus est très 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 faible.
Un suppositoire matin et soir pendant 5 jours. Après de nombreux mois d'attente, les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille vont enfin tester leur médicament contre le Covid. Dans ce journal J-2, avant les élections régionales en France, focus sur le candidat RN Julien Odoul qui pourrait remporter la Bourgogne-Franche-Comté. 42 ans après la mort de Robert Boulin, sa fille dénonce la lenteur de l'enquête et assigne l'État pour faute lourde. Et puis un match très politique. Demain, les Bleus affrontent la Hongrie à l'Euro de football.
À suivre la page des sports justement. Et mon invité inattendu pour saluer le lancement ce week-end du Hellfest. La grand-messe du rock metal se tient en ligne cette année avec une édition, en revanche, anniversaire exceptionnelle déjà prévue pour l'année prochaine. Mon invité sera une romancière que vous allez découvrir, Fana de guitare et de hard rock. Je l'appelle à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Y aura-t-il bientôt un traitement contre le Covid? L'Institut Pasteur de Lille s'apprête à en tester un pour soigner la maladie. Des essais cliniques sur plus de 600 patients de plus de 50 ans et non vaccinés. Benoît Després, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille.
Ce traitement, c'est le clofoctol, principe actif, qui présentait une très forte activité contre le virus SARS-CoV-2 in vitro. Les patients sont des patients qui ont plus de 50 ans, qui ont des symptômes récents et qui sont positifs à la Covid, évidemment. C'est un traitement par suppositoire et il y a 10 suppositoires dans le traitement, 2 par jour pendant 5 jours. Ce médicament, il a été sur le marché pendant plus de 30 ans en France. Il est toujours disponible en Italie, qui est utilisé pour traiter des affections bactériennes. Le risque de survenue d'événements qui seraient inconnus est très 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 faible. On attend une première analyse des résultats aux alentours du 15 septembre.
Des propos recueillis par Yasmina Katou. En attendant, le nombre d'hospitalisations continue de baisser. Un peu plus de 11 000 patients en ce moment et moins de 1800 malades dans les services de réanimation.
Nous sommes à 2 jours du premier tour des élections régionales. C'est le dernier jour de campagne aujourd'hui pour les candidats.
Et l'une des régions qui est scrutée de près, c'est la Bourgogne-Franche-Comté tenue par la gauche, mais où le candidat du Rassemblement National, Julien Odoul, pourrait l'emporter. Et cela malgré les polémiques qui se succèdent. Claudia Bertram.
C'est l'un des meilleurs espoirs du RN, mais Julien Odoul est aussi rompu aux polémiques. Elles n'ont pas manqué durant la campagne. Divulgation d'un enregistrement où il fait de l'humour douteux sur le suicide des agriculteurs. Contestation en interne, appel d'un candidat de son propre camp à voter contre lui. Julien Odoul dénonce des boules puantes.
Certains ont essayé d'alimenter, d'orchestrer des polémiques qui sont évidemment montées de toutes pièces. Pour ne pas parler du fond, je fais campagne sur les propositions, sur le projet pour une région qui vous protège. Et c'est sur cela que je serai jugé.
Tout cela ne l'empêche pas de faire la course en tête au premier tour dans les sondages. Le second tour s'annonce serré face à la présidente sortante. La socialiste Marie-Guy Dufay peut espérer conserver la région si En Marche finit par se retirer ou la soutenir. Le candidat RN tente donc de séduire l'électorat de la droite.
J'appelle les électeurs LR à voter utile. J'appelle au sursaut pour faire barrage à la gauche, pour faire barrage à Macron. Je suis le seul, dans cette élection, à pouvoir battre la candidate sortante. Je suis le seul à pouvoir battre la gauche.
Le parti mise sur lui tout en étant conscient qu'en cas de victoire, il pourrait être incontrôlable. Un cadre le dit, tout le monde a en tête qu'il faut le surveiller.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1, le premier tour des élections qui pourrait être marqué par un taux d'abstention record entre 59 et 64% selon un sondage publié hier. Emmanuel Macron commémore aujourd'hui le 81e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle en présence du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, et du seul survivant du commando Kieffer, Léon Gauthier, qui recevra la médaille de grand officier de la Légion d'honneur.
Plus de 40 ans après la mort de Robert Boulin, sa fille, Fabienne Boulin, assigne l'État pour faute lourde.
L'ancien ministre du Travail avait été retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet en 1979. L'enquête, réouverte en 2015 pour assassinat et enlèvement, n'avance toujours pas, selon Fabienne Boulin, malgré des demandes d'actes répétées.
J'espérais, il y a 5 ans et demi, quand il y a cette nouvelle plainte qui a été acceptée, que la justice allait se ressaisir et me donner toutes les chances de connaître enfin la vérité sur les causes de la mort de mon père. Bon, il se passe pratiquement rien. On nous dit oui, c'est très bien, c'est très légitime aux demandes, mais on n'y accède pas. Donc ça fait quand même 42 ans, est-ce qu'il faut que j'attende encore 20 ans? Quand mon père était ministre en exercice, il a été résistant, il a été maire, il a été député pendant 20 ans. C'était un homme droit, hein, bien qu'on essaye de salir pour justifier toujours le suicide. Et donc, il faut que la vérité passe dans le dossier Boulin. Voilà, ça suffit, cette mascarade.
Fabienne Boulin, la fille de Robert Boulin, jointe pour Europe 1 par Gladys Laffitte. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Steve Maya Canisso, tombé dans la Loire il y a 2 ans lors de la fête de la musique à Nantes. Après l'analyse des relevés de son téléphone, l'enquête établit que sa chute a bien eu lieu lors de l'intervention de la police.
La suite du procès en appel de Willy Bardon, accusé du meurtre d'Élodie Kulik dans la Somme en 2002.
Avec un face-à-face tendu hier entre l'accusé et le père de la victime, Jackie Kulik, un père qui réclame justice depuis près de 20 ans et qui se dit convaincu de la culpabilité de Willy Bardon. Lionel Gougelot.
Les mains fermement accrochées à la barre de la cour d'assises, Jackie Kulik témoigne pour, dit-il, rendre hommage à sa fille, cette jeune femme brillante que tout le monde considérait comme un modèle. Mais rapidement, le témoignage se transforme en réquisitoire. « Je suis venu pour voir punir gravement l'un des prédateurs d'Élodie, sa fille, dont le souvenir du corps torturé et calciné le hante à jamais. » Régulièrement, le père meurtri, qui dit avoir fait de la recherche des bourreaux de sa fille le combat de sa vie, jette un regard noir en direction de Willy Bardon. « Ma conviction est faite, assène Jackie Kulik, c'est bien la voix de Bardon que l'on entend sur la bande-son de l'appel au secours d'Élodie au moment de son agression, avant de le défier à distance. Si j'avais été là à l'époque, malgré notre différence d'âge, devant la bravade, Bardon reste de glace, le regard fixe. Puis Jackie Kulik se tourne à nouveau vers la cour. « Je suis opposé à la peine de mort, poursuit le septuagénaire, mais je lui souhaite de nombreuses années de prison. » Seule réponse de l'accusé en toute fin d'audience, « C'est très dur d'entendre tout ce qui se dit ici. » Doué, Lionel Gougelot, Europe 1.
6h07 sur Europe 1. L'actualité à l'étranger. Et après 10 ans d'absence, l'ancien président Laurent Gbagbo a fait son retour en Côte d'Ivoire.
Après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale de La Haye en mars dernier, pour son conseiller Bernard Houdin, ce retour va donner un élan de dynamisme au pays, car Laurent Gbagbo reste une voix forte en Côte d'Ivoire.
À chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que le président Gbagbo va revenir en politique en Côte d'Ivoire ? Je dis, il ne va pas revenir en politique. Pour une simple et unique raison, c'est qu'il n'en est jamais parti. Même à la prison de La Haye, il était un des points focaux de la vie ivoirienne. Et aujourd'hui, que Gbagbo sorte blanchi de la CPI, retourne à Abidjan et puisse continuer sur place la politique qu'il a toujours voulu mener, les Ivoiriens, et je pense que c'est au-delà des gens de son parti, c'est un sentiment qui est transreligieux et transethnique et transpolitique en Côte d'Ivoire. C'est la décrispation totale de la situation politique en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo, c'est la seule personne qui est capable de dire aux gens « Asseyons-nous et discutons », parce que la vie politique se fait à travers le débat qui a totalement disparu depuis 10 ans.
Bernard Houdin avec Aude Leroy pour Europe 1. L'Iran commence à voter ce matin pour élire son nouveau président. L'ayatollah Khamenei a ouvert le scrutin officiellement. Scrutin qui risque d'être marqué par une forte abstention.
Et puis J-1 avant le deuxième match des Bleus à l'Euro. Ce sera donc demain contre la Hongrie.
Et l'ambiance s'annonce déjà bouillante sur place avec près de 70 000 Hongrois dans le stade demain. Et en toile de fond, Jean-François Pérez, eh bien il y a les relations de plus en plus tendues entre les dirigeants hongrois et l'Union européenne.
Oui, derrière la carte postale de cette magnifique capitale, les points de friction se multiplient entre Viktor Orban et ses homologues du continent. Atteinte à la liberté de la presse, loi jugée homophobe, discours sans nuance sur l'immigration, rapprochement avec la Russie. Ce match arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Américo est guide touristique à Budapest depuis 20 ans. Il ne soutient pas forcément le tonitruant Premier ministre, mais il comprend sa politique.
Les Hongrois ont perdu leur identité. Orban essaie de les réveiller. Hé, vous êtes Hongrois, c'est bon d'être nationaliste. Quand vous dirigez la grosse entreprise qui est l'Union européenne, vous ne voulez pas que la petite vous résiste. Donc l'Europe de l'Ouest n'aime pas que la Hongrie regarde aussi vers l'Est. Notre futur est davantage à l'Est qu'à l'Ouest.
Membre de l'Union européenne depuis 2004, la Hongrie est farouchement attachée à son indépendance. Cet euro et ce match contre la France sont pour elle bien plus que du foot. Il en va de cette fierté nationale que Viktor Orban revendique. Seule condition, être bien meilleur que face au Portugal. Public déchaîné ou pas, les Hongrois s'étaient inclinés 3-0.
Merci Jean-François Pérez, envoyé spécial à Budapest pour Europe 1. Et on vous retrouvera, commentaire du match évidemment, demain avec Cyril de la Morinerie.
Demain après-midi, hein, attention, le coup d'envoi c'est à 15h de Hongrie-France dont on va parler dans le journal des sports. Merci à vous Sophie Echen. 6h10.